L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Radio Mandeléo pour vous informer. Voici d'abord les titres de ces radiojournales. Au sommaire, depuis le début de l'année 2026, la province du Sud-Kivu a notifié 2871 cas de Mpox et dont des décès. Ces chiffres ont été donnés par la Division provinciale de la santé qui indique que la tendance de la maladie est en baisse par rapport à l'année précédente. La moyenne mensuelle des notifications des cas est ainsi passée de 324 en 2025 à 140 en 2026. On y revient dans ces radiojournal. Également dans cette édition, au moins 27 barrières tenues par des hommes armés sont signalées sur les tronçons menant vers le centre des Kalunga en territoire des Kalehi. Selon des alertes reçues, des passagers sont contraints de payer des sommes importantes pour pouvoir circuler. Des sources locales indiquent que les personnes sans argent subissent des traitements inhumains, parfois accompagnés de violences. Le dernier cas en date est celui d'un homme de 63 ans blessé par balle pour n'avoir pas pu payer à l'une de ces barrières. La technique est assurée par Anissé Akonkwa. Au microphone pour la présentation, je suis Omer Moudekireza. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Mandeléo, celle qui vous informe par un instant. C'est tout pour les titres. Place à présent au détail. Vous l'avez suivi en titre, depuis le début de l'année 2026, la province du Sud-Kivu a notifié 2871 cas de Mpox et dont des décès. Ces chiffres ont été livrés mardi 21 avril 2026 par Justin Bengueya, responsable du bureau en charge de l'information sanitaire, de la recherche et de la communication à la division provinciale de la santé DPS Sud-Kivu dans un entretien avec Radio Mandeléo. Au détail, Hélène Boudjiriri.
Selon lui, la tendance de la maladie est en baisse par rapport à l'année précédente. La moyenne mensuelle de notification des cas est ainsi passée de 324 cas en 2025 à 140 cas en 2026. Justin Bengueya souligne que cette évolution justifie la décision prise il y a environ 3 semaines de ne plus considérer les Mpox comme une urgence de santé publique en République démocratique du Congo. Sur le plan géographique, la maladie est également en recul. Alors que 32 zones de santé étaient touchées en 2025, seules 19 zones sont affectées en 2026 sur les 34 que compte la province du Sud-Kivu. Justin Bengueya, responsable du bureau en charge de l'information sanitaire, de la recherche et de la communication à la DPS Sud-Kivu, en parle.
Pour le Sud-Kivu, nous observons une diminution sensible des cas après l'intensification de la riposte contre la Mpox qui a été organisée au mois de janvier 2026. Et depuis le début de l'année, il y a 19 zones de santé qui ont déjà notifié 2871 cas. Malheureusement, nous avons enregistré 2 décès. C'est une faible létalité calculée à 0,07%. Actuellement, la moyenne des notifications des cas, la moyenne mensuelle, est passée de 324 cas en 2025 à 140 cas en 2026. Vous comprenez quand même que les cas ont sensiblement diminué. Les nombres de zones de santé affectées sont passés de 32 à 19 entre les deux années.
Justin Bengueya précise par ailleurs que la prise en charge des cas notifiés se poursuit normalement. Plusieurs interventions restent en cours sur le terrain pour contenir la maladie, ajoute-t-il. Il s'agit notamment de la recherche et du suivi des contacts, de la vaccination des personnes exposées, ainsi que du renforcement de la surveillance des routines, conclut notre source.
Merci à vous Hélène Boudjiriri. Avec vous Alain Kabika, plus de 200 bovins constitués essentiellement des vaches sont déjà morts de la peste bovine dans plusieurs villages du groupement des Karongo Nyangezi en territoire de Walungu depuis le début de cette année 2026. Dans plusieurs alertes parvenues à Radio Mandeléo, des habitants en général, particulièrement des éleveurs, disent avoir déjà perdu leurs bovins suite à cette situation.
Parmi les signes de la maladie, les animaux atteints de cette maladie présentent des signes d'abattement physique extrême, ce qui les rend immobiles et éprouvent des difficultés à se nourrir, indique pour sa part Balagizi Nteba, technicien vétérinaire dans les groupements des Karongo Nyangezi. À ceci s'ajoutent des écoulements importants au niveau du nez et des yeux, qui deviennent clairs puis épais et changent de couleur avant de devenir purulents. D'autres signes sont une diarrhée parfois sanglante et ou contenant des lambeaux des muqueuses, une situation qui entraîne entraîne la déshydratation rapide de l'animal, indique Balagizi Nteba, qui appelle les éleveurs à la vigilance. Pour lui, les éleveurs dont les bêtes présentent des symptômes de la peste devraient alerter le service vétérinaire pour faire des inspections. Les vétérinaires Balagizi Nteba préconisent la vaccination de toutes les bêtes afin de limiter la chaîne des contaminations. On l'écoute.
Au cas où il trouve que la bête est déjà atteinte par cette peste, il faut que le vétérinaire lui autorise de l'abattre. Après avoir abattu cette bête, l'agent vétérinaire doit faire l'expertise de cette viande pour voir si la viande vraiment est consommable pour la population humaine. Si la population humaine peut encore consommer la viande de cette vache après l'expertise, ne doit pas consommer ça sans avoir intéressé le vétérinaire. Tous les cas de bêtes qui sont abattues dans les marchés ou dans les villages, même au mariage, le responsable du mariage doit faire, quand il abat une chèvre ou une vache ou un porc à son mariage, il doit avertir le vétérinaire de se préparer pour aller faire l'expertise de cette viande pour voir si c'est encore consommable. Les mesures préventives qu'on peut encore faire à cette bête, c'est la vaccination. Si l'État était capable de faire tout moyen possible pour amener les vaccins pour vacciner ces bêtes.
Pour préserver des vies humaines, ces vétérinaires conseillent l'expertise de la viande de toute bête abattue avant toute consommation, surtout dans des marchés diminués et à l'occasion des différentes cérémonies. Entre-temps, les habitants du groupement des Karongo-Nyangezi évoque la crainte de voir leur bétail être décimé avec un risque de provoquer la famine dans les milieux, d'où l'appel à une intervention urgente des autorités et experts pour arrêter ces phénomènes.
Merci à vous Alain Kabika. Et dans un autre chapitre, les cadres de concertation de la société civile du groupement Moudoussa dans les territoires des Kabare alertent sur la multiplicité des cas d'éboulement des terres qui se produisent dans ces carrés d'exploitation des pierres dans cette partie du Sud Kivu. Ces éboulements sont souvent à la base de morts d'hommes, menacent les infrastructures communautaires comme celles alimentant les populations en eau potable, en plus des dangers sur d'autres habitations, indique son coordonnateur François Mubalama. Déjà le lundi 20 avril dernier, un homme connu sous le nom de Mungwakonkwa Mugokero Teo a perdu la vie dans un éboulement des terres à Nyangouloubé pendant qu'il s'adonnait à une exploitation illicite des pierres, indique-t-il. Cette structure citoyenne rappelle que c'est depuis plusieurs mois que les alertes sont lancées au sujet des risques majeurs liés à l'exploitation anarchique et illégale dans ces carrés d'extraction des pierres, mais les solutions tardent à être envisagées. Face à ces nouveaux drames, la société civile de Moudoussa lance un appel pressant aux autorités locales et provinciales afin qu'elles prennent sans délai des mesures concrètes en réglementant ces secteurs et de sécuriser ces sites d'exploitation. François Mubalama en parle.
Malgré ces multiples interpellations, aucune mesure durable et efficace n'a été mise en place pour encadrer cette activité ni pour protéger des vies humaines. Face à ces nouveaux drames, la société civile exprime sa profonde compassion et sa solidarité à la famille d'Irama éprouvée. Par ailleurs, nous lançons un appel pressant aux autorités locales, provinciales, afin qu'elles prennent sans délai des mesures concrètes, durables et responsables pour mettre fin à l'exploitation illicite dans cette carrière.
C'était là les coordonnateurs du cadre des concertations de la société civile du groupement de Moudoussa, François Mubalama, au micro de Radio Maïndéléo. Et restons toujours dans les territoires des Kabarés. Disons que plusieurs sites d'entreposage des déchets installés dans différents villages des groupements de Chirunga et Bushuira constituent actuellement un danger pour la population locale. Il s'agit du site situé dans le village Kakoma, un groupement de Chirunga, un autre à Bwirembe dans le groupement de Bushuira. Ces sites sont à l'origine des maladies infectieuses, prolifération des insectes et rongeurs et la contamination de l'air et des sources d'eau. L'alerte de Barnabé Chinamula Mufungizi, coordonnateur du mouvement citoyen réunissant les jeunes pour le développement du Congo dans un entretien avec Radio Maïndéléo, mardi 21 avril 2026. Il indique que des chauffeurs, des véhicules contenant des déchets en provenance de Bukavu continuent d'entretenir des sites d'entreposage des déchets sur leur trajet et cela sans tenir compte des dangers que cela présente pour les populations environnantes. Pour lui, cette situation expose les riverains à des graves risques sanitaires, favorise les mauvaises odeurs et ternit l'image du milieu, d'où l'appel au bon sens des associations qui utilisent ces véhicules à l'implication des autorités. Barnabé Chinamula Mufungizi en parle.
On s'est rendu compte que Kabare est devenu un site de dépotoir, alors que l'espace que nous avons au niveau des Kabare ne peut pas faciliter à ce qu'on puisse y jeter des dépotoirs. Et ces déchets sont en train d'être vus au sein de la route, non loin des habitations. Et nous disons que vraiment, trop c'est trop. Il faut que les gestionnaires et que les autorités comprennent que les habitants sont en danger. Et plus particulièrement, nous demandons à l'autorité urbaine de pouvoir revenir sur ces mesures, d'ériger ces sites de Kakoma, les sites de Bwirembe en dépotoir. Il y a tant d'autres espaces au niveau du territoire des cabarets.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
La suite de cette édition du journal, comme d'ailleurs annoncé au sommaire, au moins 27 barrières entretenues par des hommes armés sont visibles sur les tronçons conduisant vers le centre des Kalonga en territoire des Kalehi. Les tracasseries sur ces barrières commencent dès que les usagers quittent la route nationale numéro 3 pour emprunter les tronçons conduisant vers Kalonga jusqu'à l'entrée du territoire des Shabunda et même les groupements voisins des Ninja en territoire des Kabari. Des alertes parvenues à la rédaction de Radio Maendeleo font état des contraintes imposées aux passagers jusqu'à à payer des sommes importantes d'argent avant tout passage. Des témoins ont dit que tout celui qui n'a pas d'argent est soumis à des traitements inhumains et des tortures. Le cas récent est celui d'un homme âgé de 63 ans, blessé par balle pour avoir manqué de quoi payer à l'une de ses barrières. D'autres personnes sont particulièrement ciblées pendant la journée pour être attaquées dans la soirée, ajoutent nos sources sur place. Une situation dénoncée par les usagers de cet ensemble qui plaident pour la suppression de ces barrières et demandent aux autorités qui contrôlent la zone d'intervention venir à fond de mettre fin à ces abus. L'un d'eux en parle.
C'est pas la naissance que les gens ont des armes qui les utilisent très mal, qui doivent rendre la vie des autres très difficile. Plus de 27 barrières identifiées dans les bâtiments en général, dont les barrières qui forage sont les barrières érigées à l'entrée du grand marché de Kalonga à Kouacheng. La barrière se trouve à l'entrée du centre commercial de Chifunzi à Kafunzi. La barrière se trouve dans la plantation des Deye à Tchaminou, la barrière se trouva à Tchoubera et beaucoup d'autres barrières dans les coins et les coins du mouvement en général. Nous demandons aux autorités militaires qui ont les responsabilités en main de s'impliquer d'une manière urgente pour la suppression totale de ces derniers car la population souffre.
Et dans un autre registre, le député provincial Jackson Kalimba plaide pour l'ouverture d'un centre de capture de passeports dans la ville d'Uvira en vue de répondre à la forte demande des habitants du Sud Kivu, contraints de se déplacer jusqu'à Beni au Nord Kivu pour obtenir ses titres de voyage. Il est dit dans une motion d'information datée de mardi 21 avril. Dans cette motion, l'élu de Bukavu rappelle les calvaires des requérants du Sud Kivu qui parcourent des longues distances, bravant parfois l'insécurité pour atteindre la ville de Beni au Nord Kivu. Le passeport est un des documents le plus convoité, sachant que les habitants du Sud Kivu vivent en grande partie des échanges avec les pays étrangers, notamment pour le commerce, les études et les soins de santé, indique Jackson Kalimba.
À ce jour, la population de la province du Sud Kivu est confrontée à un problème sérieux pour obtenir les passeports. Vivant en grande partie des échanges avec les pays étrangers, notamment par le commerce, les études, les soins de santé et autres, la population du Sud Kivu est contrainte de partir à Beni, dans la province de Nord Kivu, pour se procurer de ces documents. Cela n'est pas sans conséquence, tant sur les plans sécuritaires que financiers. Dans des conditions sécuritaires précaires, sur la route Goma-Butembo-Beni, où l'insécurité bat son plein, ceux qui passent par l'Ouganda sont contraints de payer des sommes colossales pour arriver à Beni et pourtant victimes depuis plus d'une année de la guerre.
Dans sa motion, il sollicite également la réduction du prix des tenants-lieux des passeports dans son nouveau format fixé à $50. Il juge ces montants exorbitants pour un document d'une validité d'un an, sachant que les passeports dont la validité est de 5 ans est disponible officiellement à $75. Et dans le reste de l'actualité, les enseignants de la province du Sud Kivu, payés via EQTBCDC, n'ont pas touché leur salaire depuis plus de 2 mois maintenant. Malgré les démarches menées par les syndicalistes auprès du gouvernement, ces salaires tardent toujours à parvenir aux ayants droit, ce qui accentue leur vulnérabilité. L'alerte est déjà que Chirimouami, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants du Sud Kivu, dans une communication à la presse, mardi 21 avril 2026. Celui-ci s'étonne de voir qu'un tel traitement soit réservé aux enseignants du Sud Kivu en cette période aussi sensible. Jacques Chirimouami déplore également le fait que les salaires des enseignants décédés au Sud Kivu soient transférés dans d'autres provinces 6 mois après. Pourtant, il y a toujours de nouvelles unités et non payées qui devraient en profiter en province. Jacques Chirimouami appelle le gouvernement au bon sens et demande aux enseignants de demeurer vigilants. On l'écoute.
Ça fait déjà plus de 2 mois que les enseignants qui touchent par Equity BCDC n'ont pas accédé à leur salaire. Nous avions essayé de remonter les démarches pour savoir ce qui bloque la machine et par une surprise négative, nous constatons que l'ODG n'a pas libéré les enseignants du site Kivu qui touchent par le trichement de Equity Bank. Nous demandons à l'ODG de mettre les enseignants qui touchent par BCDC dans leurs droits. Comme si cela ne suffisait pas. Tous les enseignants qui sont déjà morts, leurs salaires sont en train d'être récupérés et envoyés dans d'autres provinces. Le fichier P est en train d'être corrigé dans toutes les provinces de la RDC sauf ici. Je vous informe qu'aucun mouvement ne peut se faire au Sekopé. Nous demandons au gouvernement d'être juste envers nous enseignants du Sud Kivu. Nous ne sommes pas responsables de la situation actuelle que traverse le pays. Nous voulons quand même que nous soyons traités comme des Congolais au même titre que les autres Congolais. Trop c'est trop.
Jacques Chirimouami, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants du Sud. Et toujours éducation dans ce journal. Évaluer les performances des finalistes du primaire pour les préparer à participer à l'examen national des fonds d'études primaires ENAFEP. C'est la raison de l'organisation mardi 21 avril 2026 d'un pré-test dans les écoles privées agréées. Dénommé pré-ENAFEP, ce test a été organisé dans la ville de Bukavu et les territoires des Kabare par l'Association nationale des écoles privées agréées, à son EPA en sigle, avec le concours de l'inspection provinciale de l'éducation. Le lancement officiel a été effectué au complexe scolaire élite qui a été choisi comme un des centres de passation de ces pré-tests dans la ville de Bukavu. Détail, Expedi Kalou.
Le coordonnateur provincial de la SONEPA, Mirango Fanuel, a invité les lauréats à travailler sans complexe et avec assiduité pour permettre aux examinateurs d'évaluer leur niveau avant l'examen proprement dit prévu au mois de juin prochain. Il précise qu'il ne s'agit pas d'un examen au terme duquel le meilleur sera proclamé, mais une évaluation de la capacité individuelle de chaque lauréat. Le coordonnateur provincial de la SONEPA, Mirango Fanuel.
Après les enseignements donnés aux élèves, nous devons les préparer à être plus compétitifs au niveau des examens certificatifs. Dans ce cadre-là, nous devons les préparer d'abord avec un examen pré-test qui est standard au niveau de toute la province. Et après cela, nous devons ramener les copies des examens-là, des pré-tests, à une correction. Et nous devons évaluer les faiblesses de nos élèves, les faiblesses de nos écoles et les forces afin que nous puissions organiser un système de remédiation avant que ne se tienne l'examen certificatif. C'est pourquoi chez nous, nous ne faisons même pas des proclamations. Au lieu des proclamations, nous faisons plutôt la correction en classe. C'est-à-dire chaque directeur va revenir prendre les copies après la correction. On corrige avec les élèves. Les élèves découvrent leurs faiblesses. Ce sera une correction pédagogique où on va corriger avec explication.
De son côté, le porte-parole de la SONEPA, Serafin Tigondo, ajoute que le questionnaire a été constitué en intégrant des questions usuelles des cours retenus au programme national de la 6e année primaire comme les mathématiques, le français, l'anglais, le kiswahili et la culture générale. Au total, 3030 élèves finalistes du primaire ont participé à ce test dans la ville de Bukavu et 995 dans le territoire de Kabare. Ils étaient répartis dans 24 centres, dont 17 à Bukavu et 7 en territoire de Kabare.
Et page noire à présent dans cette édition du journal, l'artiste et musicien de Bukavu, Byamungu Mugisho, connu sous le nom des Americano, est décédé ce mardi 21 avril 2026, selon plusieurs sources concordantes. Son corps a été retrouvé aux abords de la rivière Ruzizi. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore connues. Figure emblématique de la scène musicale du Sud Kivu, Americano est considéré comme l'un des pionniers de la musique dans la province. Il a formé plusieurs artistes de Bukavu et dans d'autres villes, contribuant à l'émergence de nouveaux talents. L'artiste laisse derrière lui un riche répertoire, composé notamment des titres à succès comme Kazi ni Kazi ou encore Sapilo, qui ont marqué le public par leur caractère à la fois éducatif et engagé. Selon les mêmes sources, il a été inhumé le même jour par les équipes de la Croix-Rouge appuyée par la police non loin de la rivière Ruzizi où son corps a été découvert. Esport sans transition, l'ancienne star du football congolais Chaban Inonda a officiellement déposé sa candidature
candidature à la présidence de la Fédération Congolaise de Football, l'association FECOFA. L'ex-international aux 48 sélections, reconnu pour une carrière prolifique dans le plus grand club européen, attend mettre son prestige et son expérience du football professionnel au service du développement du football national. Sa candidature intervient dans un contexte particulièrement porteur après la qualification historique des Léopards pour la Coupe du Monde 2026. Pour rappel, l'élection des nouveaux membres du comité exécutif de la FECOFA aura lieu le 20 mai prochain.
La revue de presse. Radio Mindélé au Capt vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
L'annonce du début des retours volontaires des réfugiés congolais vivant au Burundi, la dégradation des routes de la voirie urbaine déplorée par la nouvelle dynamique de la société civile et l'évaluation de la situation sécuritaire dans le groupement de Moudoussa en territoire de Kabare font partie des sujets commentés par la presse à Bukavu, mardi 21 avril 2026. Alors Kabika pour la revue de presse.
Le gouvernement du Burundi, en collaboration avec les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés HCR, annonce le lancement officiel des opérations de retour volontaire des réfugiés congolais vivant sur son territoire à partir du 23 avril 2026, annonce le site internet lapresseafricaine.net. L'information est contenue dans une note conjointe publiée et consultée par la rédaction de ces médias. Selon cette note, l'opération s'inscrit dans un processus de retour facilité des ressortissants de la RDC installés dans différents sites. Cette opération sera coordonnée par les autorités burundaises avec l'appui des partenaires internationaux dans un contexte régional encore marqué par les défis sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo. Selon les autorités burundaises et les HCR, il s'agit d'une décision individuelle, libre et sans contrainte, précise la note, soulignant que la sécurité, la dignité et les droits fondamentaux des réfugiés demeurent au cœur du processus. Dans une première phase, note ces médias, seuls les réfugiés congolais du Mont enregistrés seront éligibles. La priorité sera accordée aux ménages vulnérables, notamment ceux ayant des enfants scolarisés en fin de cycle, les personnes à besoins spécifiques ainsi que certains agents publics. Les retours viseront principalement les zones du Sud Kivu, notamment Uvira, accès Uvira Baraka, Fizi et Mboko, ainsi que la plaine de la Ruzizi, incluant les localités de Kiliba et Runingu, précise les documents. Par ailleurs, une subvention multifonctionnelle de $150 américains par adulte et $75 américains par enfant est prévue. Des aides spécifiques sont également annoncées, notamment pour les logements, l'éducation des enfants vulnérables et l'accès à des kits d'hygiène pour les femmes. Dans une dépêche rendue publique lundi 20 avril 2026 et consultée par estnews.info, la nouvelle dynamique de la société civile indici déplore une détérioration progressive des routes de la voirie urbaine à Bukavu, marquée par la multiplication des nids de poules et des stagnations d'eau après chaque pluie, rendant la circulation difficile et parfois dangereuse pour les usagers, annonce dans un autre sujet le site estnews.info. Selon cette structure citoyenne citée par ces médias, plusieurs tronçons sont particulièrement touchés. Il s'agit notamment de la route reliant la place industrielle au marché de Kadutu, celle allant de la place de l'Indépendance jusqu'à l'hôpital de Chiriri, ainsi que l'axe menant vers l'hôpital de Panzi. À ceci s'ajoute également la route Bralima-Mushekere et celle reliant l'Institut de Bagira à la maison communale de Bagira. Face à cette situation, écrit Est News, la NDC appelle les autorités compétentes à engager une réhabilitation urgente de ces routes, même à travers des solutions provisoires comme les remblayages en terre battue. Elle estime qu'une telle initiative permettrait de fluidifier la circulation et de réduire les risques d'accidents. Par ailleurs, la structure salue les travaux communautaires d'assainissement organisés chaque samedi dans la ville et encourage la population à renforcer son engagement civique pour l'entretien de l'espace public. Bouclons cette revue de presse avec le site kabareactu.info qui annonce que l'administrateur du territoire de Kabare sous la FC123, Eli Rubabura Espoir, a présidé le lundi 20 avril une réunion sécuritaire extraordinaire à Nyantende consacrée à l'évaluation de la situation sécuritaire dans les groupements de Moudoussa et Momosho. Selon les organisateurs cités par Kabar et Actu, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des orientations du gouverneur des provinces du Sud Kivu, Patrick Busubangui Chombo. Les échanges ont permis de dresser un état des lieux de la situation sécuritaire dans les deux entités concernées. À l'issue des discussions, des mesures ont été arrêtées en vue de renforcer la sécurité et de prévenir d'éventuelles menaces. Dans son intervention, poursuit ses médias, l'administrateur du territoire de Kabaré a salué l'implication des acteurs locaux dans la recherche de la paix et de la stabilité, les appelant à poursuivre les efforts engagés pour restaurer un climat apaisé dans la région. Au cours de la même réunion, Elie Roubaboura Espoir a invité les jeunes à s'engager au sein de l'armée révolutionnaire congolaise, présentée comme la branche militaire de l'AFC en 23, afin de contribuer à la défense et la stabilisation de la zone, conclut ces médias.
Un communiqué avant la fin de cette édition du journal, la Direction provinciale des impôts du Sud-Kivu rappelle à tous les contribuables concernés par l'impôt sur les bénéfices et profits IBP que l'échéance de dépôt des déclarations afférentes à l'exercice fiscal 2026 et revenu 2025 des grandes et moyennes entreprises, que le dépôt du bordereau et des paiements de la deuxième quotité des 40% de l'IBP à charge des petites entreprises et des déclarations et paiements de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises intervient au plus tard le jeudi 30 avril 2026. Passé ces délais, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Aussi, la Direction provinciale des impôts du Sud-Kivu précise que cette échéance concerne également les entreprises des bénéficiaires des exonérations fiscales, les entreprises ayant débuté leurs activités au cours de l'année 2025, les entreprises en cessation d'activité, ainsi que celles ayant subi une perte ou n'ayant réalisé aucun revenu imposable. Par ailleurs, la déclaration ou les bordereaux doit être accompagnée de la preuve de paiement, quittance ou bordereaux de versement de la CADECO. En ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime de droit commun, cette déclaration doit être accompagnée des annexes prévues dans l'acte uniforme relatif au droit comptable et l'information financière du 26 janvier 2017, du relevé récapitulatif des ventes effectuées au cours de l'année 2025, ainsi que toute autre pièce justificative jugée nécessaire, notamment la balance générale des comptes. Les annexes ci-haut évoquées doivent être déposées en support papier par les contribuables concernés auprès de leurs services gestionnaires respectifs. En outre, pour ce qui concerne les entreprises soumises au régime des droits communs, la Direction provinciale des impôts du Sud-Kivu insiste sur le fait que les états financiers annuels de synthèse à joindre aux déclarations de l'impôt sur les bénéfices ses profits de l'exercice fiscal 2026 revenu 2025 doivent être certifiés par les experts comptables et de manière exceptionnelle pour cet exercice par les comptables maison ou les conseillers fiscaux. Par ailleurs, le contribuable concerné par les impôts suisses visés et gérés par les centres d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs. C'est signé par Kanege Ntawaku de Roacha, directeur. Et c'est par cette note, mesdames, messieurs, que nous mettons fin à cette édition du journal sur Radio Maïndéléo. Sa mise en onde était celle des Anissé à Konkwa. Au microphone pour la présentation, c'était bien moi, Omer Moudekereza. Au revoir.